RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales construira 550 puits forêts. L'Indonésie espère être dans le top 10 du décompte des médailles des Jeux asiatiques. Le consulat général d'Indonésie à Marseille promeut les alimentations traditionnelles de l'Indonésie. Les plants de fougères sont maintenant exportés en Australie. L'Indonésie a initié le développement de la coopération de l'ASEAN avec Napoli. Christine Lagarde et Jim Yong Kim ont assisté à un voyage en Indonésie. Jeremy nous présente maintenant le journal complet. Le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Ignatius Jonan, a fixé des objectifs de construire 550 foras des eaux souterraines dans toute l'Indonésie en 2018, dont 78 unités seront construites à Java Est. Ceci a été transmis par Ignatius Jonan lors de l'inauguration d'un puits de foras des eaux souterraines à Pondok Pesantren Raudatul Ulum au village de Suci, sous-district de Panti, Jember, Java Est, récemment. Il a dit que le nombre de puits de forage construits cette année est plus que l'année dernière qui a été réalisé jusqu'à 237 unités de puits de forage à partir de la cible de 250 unités dans toute l'Indonésie. Il a également déclaré que le nombre croissant de puits forés des eaux souterraines était en mesure de répondre aux besoins en eau potable dans la zone de façon plus uniforme, de sorte que les gens n'auront aucune difficulté à obtenir des eaux propres. Le ministre indonésien des Affaires de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, a déclaré que l'objectif de l'Indonésie lors des Jeux asiatiques 2018 était dans les 10 premières du nombre de médailles. Comme indiqué Antara, Imam Nahrawi à Kediri dans l'Est de Java dimanche a affirmé que le gouvernement était toujours concentré sur l'achèvement des sites qui seront utilisés pour les Jeux asiatiques 2018. En outre, le gouvernement actuel est toujours axé sur la préparation des athlètes qui seront en compétition, donc quand le match, ils sont prêts et apportent la bonne réputation de la nation. Le consulat général de la République d'Indonésie à Marseille, en France, promeut la cuisine traditionnelle indonésienne au maire de Marseille, Jean Ruata, au directeur de la promotion du gouvernement, Frédéric Olivo, et au directeur de la région asiatique, Martial Gaspar. Comme cité par Antara à Jakarta lundi, le consulat général d'Indonésie à Marseille a promu la nourriture indonésienne, entre autres rendang, satay, de poulet et gado-gado. En outre, les responsables du gouvernement de la ville de Marseille ont également été informés du potentiel du tourisme et de l'économie indonésienne par la visualisation de vidéos et la fourniture des données de statistiques économiques. Certaines mesures concrètes de coopération qui seront faites par le consulat général d'Indonésie et la municipalité de Marseille dans un proche avenir est un programme d'échange d'étudiants entre l'Indonésie et la France, la participation de l'Indonésie dans les activités du Carnaval de Marseille, une rencontre avec les autorités portuaires et IAR, le programme de rencontre de commerce et de l'investissement, le programme du festival indonésien qui mettra en vedette des spectacles de danse, de musique et d'autres produits des arts indonésiens. Cette activité est une forme de la diplomatie de promotion culinaire et des mesures concrètes pour établir des bonnes relations avec le responsable politique de Marseille. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'agent de quarantaine agricole du ministère de l'Agriculture de l'Indonésie fait l'accélération des exportations de 38 800 tiges de plantes de fougères ornementales vers l'Australie via l'aéroport Ahmad Yani Semarang, Java Central. Le chef de la salle de quarantaine agricole de la classe 1 Semarang, M. Wawan Sutian, par une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré que la plante de fougère ornementale est exportée par PT Tropica Flora Persada. Selon M. Wawan Sutian, la valeur des exportations de fougères ornementales vers l'Australie s'élevait à 580 millions de rupiah. Avec une superficie de 40 hectares, l'entreprise peut récolter chaque jour 50 000 tiges de fougères décoratives. La société en 2017 est en mesure d'exporter plus de 10 220 000 tiges de fougères au Japon et à Singapour. L'ambassadeur des pays de l'ASEAN en Italie a tenu une réunion avec le maire de Naples en Italie. La réunion s'est tenue dans le cadre de la visite de travail du comité de l'ASEAN à Rome à Naples récemment. À cette occasion, l'ambassadrice indonésienne en Italie, Madame Esti Andayani, a déclaré que l'Indonésie initiait cette activité pour renforcer les relations qui ont été bien établies. En outre, pour intensifier la coopération entre les pays de l'ASEAN et l'Italie, notamment Naples. Le gouvernement de la ville de Naples peut profiter de la croissance économique de la classe moyenne de la société dans la région de l'ASEAN, qui était très bien noté afin d'accroître la coopération touristique. En plus de rencontrer le maire de Naples au Palazzo San Giacomo, les ambassadeurs ont également rencontré le président de la Chambre de commerce de Naples, Girolamo Petrono, pour discuter des opportunités de coopération économique et commerciale. Le maire de Naples, Luigi de Magistris, a déclaré que la région de l'Asie du Sud-Est était très importante pour le développement du tourisme et de la coopération commerciale, ainsi que pour l'artisanat et l'industrie manufacturière. L'ambassade indonésienne à Washington DC a accueilli la réception de Voyage en Indonésie en 2018. Cette activité a réuni environ 50 directeurs exécutifs du FMI et de la Banque mondiale. Cette activité fait partie d'une série des préparatifs pour l'Indonésie d'accueillir la réunion du FMI et la Banque mondiale et ajustée à la réunion de printemps du FMI et la Banque mondiale tenue en avril 2018 à Washington DC. La mise en œuvre de la réunion annuelle du FMI et la Banque mondiale à Bali en octobre 2018 sera assistée par environ 15 000 délégués. Comme déclaré la directrice générale du FMI, Madame Christine Lagarde, lorsqu'elle assistait à la réception de Voyage en Indonésie à Wisma Tilden vendredi à Washington DC. Lors du même événement, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a souligné l'engagement du gouvernement indonésien à se concentrer sur le développement du capital humain. Il apprécie énormément le gouvernement indonésien qui accorde une grande attention au développement de ce secteur. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « La journée de la force aérienne de la République d'Indonésie ». Le 9 avril est devenu un jour important pour l'armée de l'air de la République d'Indonésie, ou TNI AU. C'est le jour où le président Sukarno a déclaré qu'en 1946, la création de l'armée de l'air. Le 9 avril est également célébré comme la journée nationale de l'aviation. La mise en place de la force aérienne ne peut pas être séparée de la création de l'Agence de sécurité populaire, ou BKR, le 23 août 1945. Quelque temps plus tard, le 5 octobre 1945, BKR a été transformé en Armée de sécurité du peuple, ou TKR. La force aérienne en ce moment-là a été nommée TKR Bureau de l'aviation sous le commandement du commandeur de l'air Suryadi Suryadharma en tant que premier chef d'état-major de l'armée de l'air. Le 23 janvier 1946, TKR a été augmenté à nouveau d'être l'armée de la République d'Indonésie, ou TRI, comme une continuation du développement de la force aérienne. Le 9 avril 1946, le bureau d'aviation de TRI a supprimé, puis remplacé par le nom de l'armée de l'air de la République d'Indonésie. Depuis lors, le 9 avril est célébré comme l'anniversaire de l'armée nationale de l'armée de l'air, ou TNI AU. En plus, le processus de naissance est si bref, dure environ 7 mois depuis l'indépendance indonésienne. Le système principal d'armement appartenant à la force aérienne à cette époque-là, qu'avec des avions anciens provenant du Bhoutan de l'armée japonaise, comme le type de Chureng, Nishikoreng, Guntei et Hayabusa. Le nombre d'aviateurs et techniciens est très limité. Dans la limite des équipements de défense appartenant à ce moment-là, la force aérienne est en mesure de se tailler l'ancre d'or dans les pages de l'histoire de la lutte de la nation indonésienne. Pour la première fois, un avion avec une identité rouge et blanche, piloté par le commandeur de l'air Agustinus Adi Sucipto, a volé le 27 octobre 1945. L'armée de l'air a maintenant 72 ans. L'état de l'équipement du système d'armes principales, ou alutsista, de la force aérienne à présent n'est pas encore conforme à la nécessité afin de soutenir les opérations sophistiquées de TNI. Mais cela ne réduit pas l'esprit de garder et de maintenir l'intégrité de l'État unitaire de la République d'Indonésie, conformément à la devise « Sois buona paksa » ou « Les ailes de ma patrie ». Espérons que l'armée de l'air sera toujours le protecteur de tout le territoire de la souveraineté indonésienne et pourra élever la dignité de la nation et construire une glorieuse Indonésie dans l'air. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 9 avril 1946, la journée de la force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie. La force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie, ou TNI AU, est l'une des branches des forces armées chargées des opérations de défense de la République d'Indonésie dans l'air. La force aérienne a d'abord été une partie de l'armée anciennement connue sous le nom de l'Armée populaire de sécurité, ou TKR Bureau d'aviation. TNI AU a été formée le 9 avril 1946 avec la création de l'armée de la République d'Indonésie, ou Terre et Force Aérienne, conformément à leur disposition du gouvernement numéro 6 l'année 1946. Ces changements ne sont pas séparés des efforts du gouvernement indonésien visant à maintenir son indépendance du Pays-Bas. On nécessite la force aérienne pour défendre la souveraineté de l'État, après l'armée, la marine et assistée par la police. Chaque 9 avril, la famille de la force aérienne de l'armée nationale d'Indonésie commémore comme un moment historique de changement dans le département de TKR Bureau d'aviation d'être Terre et Force aérienne. Dans l'histoire de ces voyages, le 9 avril était une fois célébré comme le jour de la ratification de la force aérienne de l'armée de la République d'Indonésie et était également célébré comme la journée de l'armée de l'air, puis célébré comme l'anniversaire de la force aérienne, même une fois célébré comme la journée de l'aviation nationale. Après, il est célébré comme la journée de l'armée de l'air de la République d'Indonésie. Le 9 avril 2021, le président Abdurrahman Wahid a permis la célébration du Nouvel An chinois pour ses disciplines. En Indonésie, au cours du gouvernement de Nouvel Ordre en 1968 jusqu'en 1999, les Chinois ont été interdits de célébrer le Nouvel An chinois en public. Il est basé sur l'instruction présidentielle numéro 14 l'année 1967, publiée par le président Suharto, qui a interdit toutes les choses chinoises, y compris le Nouvel An lunaire. Mais sous le règne du président Abdurrahman Wahid, les descendants chinois en Indonésie ont gagné la liberté de célébrer le Nouvel An chinois à partir de 2000. Et ensuite, le président Abdurrahman Wahid a révoqué l'instruction présidentielle numéro 14 l'année 1967 et publié le décret présidentiel numéro 19 l'année 2001 du 9 avril 2001 qui a inauguré Imlek comme une vacance facultative, ce qui signifie qu'il ne s'applique à ceux qui célébraient. Et ensuite, la célébration du Nouvel An chinois en Indonésie a changé en 2002. Imlek a officiellement été déclaré l'une des fêtes nationales par le président Megawati Soekarnoputri en 2003 jusqu'à aujourd'hui. Le 9 avril 2009, les élections générales des membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux et le Parlement régional d'Indonésie. Les élections générales des membres du Parlement, du Conseil des représentants régionaux et du Parlement régional d'Indonésie de 2009, soit l'élection législative 2009, a été tenue pour élire 560 membres du Parlement, 132 membres du Conseil des représentants régionaux et membres du Parlement régional au niveau provincial et régions en Indonésie pour la période 2019 jusqu'à 2014. Le vote s'est déroulé simultanément dans presque toutes les régions de l'Indonésie le 9 avril 2009. L'élection générale des membres du Parlement se fait selon un système proportionnel ouvert dont les calculs sont basés sur un certain nombre de circonscriptions électorales. Cette élection générale est la première fois avec la détermination du candidat élu sur la base du vote majoritaire, non basé sur le nombre de candidats élus par les partis politiques. L'élection générale des membres du Parlement 2019 a été suivie par 38 partis politiques. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
Indonesiaku, Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie-Singapour renforce la coopération en matière d'investissement dans trois secteurs ». L'Indonésie et Singapour ont convenu de renforcer la coopération dans trois secteurs prioritaires, à savoir le marché des capitaux, l'économie numérique et le tourisme, ainsi que les infrastructures soutenantes. C'est l'un des points d'accord lors de la deuxième réunion du Conseil des affaires Indonésie-Singapour, ISBC, organisée par le Conseil de coordination des investissements indonésiens, BKPM, avec la Chambre de commerce et d'industrie, ou CADIN de l'Indonésie, en coopération avec le Conseil de développement économique, IDB, Singapour, et la Fédération des entreprises de Singapour, SBF, au bureau de BKPM de Jakarta. La réunion était l'un des suivis de la réalisation du protocole d'accord entre les deux pays, signé le 28 juillet 2017. Sur la base du protocole d'accord, il a été convenu que les réunions des membres ISBC se tiennent deux fois par an, alternativement à Jakarta et à Singapour. Le Conseil d'affaires Indonésie-Singapour, ISBC, a été créé entre les hommes d'affaires indonésiens et singapouriens. Sa création est soutenue par BKPM et EDB, qui est administrateur. Les membres d'ISBC sont les 10 meilleurs entrepreneurs d'Indonésie et 10 de Singapour. Thomas Lembong, chef du Conseil de coordination des investissements indonésiens, a déclaré que les trois secteurs convenus avaient été choisis pour que les deux pays puissent en tirer parti et optimiser le potentiel. Il a expliqué que l'Indonésie peut profiter de Singapour, qui est connu comme un centre financier en Asie, pour obtenir des financements des projets d'investissement dans le secteur du tourisme et l'économie numérique. Thomas Lembong expliquait que lors de la première réunion à huis clos de l'ISBC, tenue le 7 septembre 2017 à Singapour, il a été convenu que parmi les 6 principaux secteurs, seulement 3 seront prioritaires à moyen terme, à savoir les marchés de capitaux, l'économie numérique et le tourisme, ainsi que ses infrastructures soutenantes. Thomas Lembong a affirmé qu'à partir des réunions, la délégation devrait obtenir des informations directes sur les opportunités des projets potentiels dans le secteur du tourisme et des infrastructures. D'après les données détenues par BKPM, la réalisation de l'investissement de Singapour en 2012-2017 a atteint 39 milliards de dollars américains. Ceci a énuméré Singapour comme le plus grand investisseur en Indonésie. La réalisation des chiffres d'investissement de Singapour est assez volatile. La position en 2016, qui atteint 9,1 milliards de dollars américains, a diminué à 8,4 milliards de dollars américains en 2017. Les investisseurs de Singapour ont beaucoup investi dans le secteur des transports, l'entreposage, les télécommunications, les plantations et l'industrie papetière. En termes d'emplacement, la répartition de l'investissement de Singapour est relativement égale, marquée par 51% en dehors de Java et 49% à Java. Serviteur, c'était mon Indonésie pour aujourd'hui. Secrétaire, voici donc le rappel du titre de l'actualité.
Le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, M. Ignatius Jonan, a fixé des objectifs de construire 550 foras des eaux souterraines dans toute l'Indonésie en 2018, dont 78 unités seront construites à Java Est. Ceci a été transmis par Ignatius Jonan lors de l'inauguration d'un puits de forage des eaux souterraines à Pondok Pesantren Raudatul Ulum au village de Suci, sous-district de Panti, Jember, Java Est, récemment. Le ministre indonésien des Affaires de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, a déclaré que l'objectif de l'Indonésie lors des Jeux Asiatiques 2018 était dans les 10 premières du nombre de médailles. comme indiqué Antara, Imam Nahrawi à Kediri dans l'est de Java dimanche a affirmé que le gouvernement était toujours concentré sur l'achèvement des sites qui seront utilisés pour les Jeux Asiatiques 2018. Le consulat général de la République d'Indonésie à Marseille en France promeut la cuisine traditionnelle indonésienne au maire de Marseille, Jean Ruata, au directeur de la promotion du gouvernement, Frédéric Olivo, et au directeur de la région asiatique, Martial Gaspar. Comme cité par Antara à Jakarta lundi, le consulat général d'Indonésie à Marseille a promu la nourriture indonésienne, entre autres rendang, satay, de poulet et gado-gado. L'agent de quarantaine agricole du ministère de l'Agriculture de l'Indonésie fait l'accélération des exportations de 38 800 tiges de plantes de fougères ornementales vers l'Australie via l'aéroport Ahmad Yani Semarang, Java Central. Le chef de la salle de quarantaine agricole de la classe 1 Semarang, M. Wawan Sutian, par une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré que la plante de fougère ornementale est exportée par PT Tropica Flora Persada. L'ambassadeur des pays de l'ASEAN en Italie a tenu une réunion avec le maire de Naples en Italie. La réunion s'est tenue dans le cadre de la visite de travail du comité de l'ASEAN à Rome à Naples récemment. À cette occasion, l'ambassadrice indonésienne en Italie, Madame Esti Andayani, a déclaré que l'Indonésie initiait cette activité pour renforcer les relations qui ont été bien établies. En outre, pour intensifier la coopération entre les pays de l'ASEAN et l'Italie, notamment Naples. L'ambassade indonésienne à Washington DC a accueilli la réception de voyages en Indonésie en 2018. Cette activité a réuni environ 50 directeurs exécutifs du FMI et de la Banque mondiale. Cette activité fait partie d'une série des préparatifs pour l'Indonésie d'accueillir la réunion du FMI et la Banque mondiale et ajustée à la réunion de printemps du FMI et la Banque mondiale tenue en avril 2018 à Washington DC.
Serviteur, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Serviteurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions de l'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présenterons la danse Keje de Bengkulu. Restez à l'écoute. La tribu de Rejang est l'une des tribus qui vivent dans la province de Bengkulu. La majorité de la tribu vit dans certaines régions telles que Lebong, Rejang Lebong et Kepahiang, la province de Bengkulu, en particulier dans le centre, le nord et l'arrière-pays à l'entour des collines de Barisan, avec le nombre de la population d'environ de 900 000 personnes. La tribu de Rejang a la danse typique qui est menée dans toutes les cérémonies traditionnelles. Cette danse est la danse Keje. La danse Keje est menée lors de la plus grande cérémonie dans la tribu Rejang, à savoir la cérémonie Keje. Cette cérémonie est appelée la plus grande cérémonie parce que la cérémonie est menée par des personnes qui sont en mesure d'abattre des vaches, des chèvres ou des buffles comme condition de la mise en œuvre de la cérémonie Kejei. La danse Kejei est menée par des jeunes au centre du village à la nuit. La danse est comme un événement d'introduction parmi les jeunes filles et les hommes. Les instruments d'accompagnement en bambou tels que le kolintang, le seruling et le gong sont typiques de la danse. Serviteur, la danse Kejei était réalisée pour la première fois lors du mariage de la princesse Senggang et Bhikkhu Bermano. Cette danse aurait existé avant l'arrivée des moines de Majapahit. Depuis les moines arrivent, les instruments de musique ont été changés avec du métal et utilisés jusqu'à maintenant. Selon l'histoire, le livre de mise en œuvre de Kejei était stocké dans l'estomac du moine Bermano. L'événement Kejei est mené à long terme. Il peut être mis en œuvre pour 3 jours, 15 jours, 3 mois ou même 9 mois respectivement. Serviteur, cette danse est une danse sacrée qui est considérée par la société comme ayant des valeurs mystiques, de sorte qu'elle est uniquement menée par les gens de Rejang pour accueillir les moines, les mariages et la tradition du clan. En 2017, la danse est fixée comme langue des patrimoines culturels immatériels par le ministère de l'Éducation et de la Culture. La décision a été signée par la remise du certificat de patrimoine culturel immatériel par le ministre Muhajir Effendi au gouverneur par intérim de Bengkulu, le docteur vétérinaire Rohidin Mersyah, MMA. Serviteur, c'était notre programme Le Magazine Culturel pour aujourd'hui avec le titre La danse Kejei de Bengkulu. Merci de votre attention. À demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est locasi ou en langue française, location. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre locasi ou en langue française, location. Tony, candi apa yang ada di tengah? Pemandu wisata. Candi Siwa. Tony, lalu candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa? Pemandu wisata. Candi Brahma. Tony, oh, di mana Candi Wisnu? Pemandu wisata. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire le vocabulaire et les expressions et les phrases reliant au thème d'aujourd'hui, à savoir location ou en langue française location. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Candi, candi, en français, temple. Apa nama candi yang ada di tengah? Apa nama candi yang ada di tengah? En français, quel est le nom du temple au centre? Sebelah kanan. Sebelah kanan, en français, à droite. Sebelah kiri. Sebelah kiri, en français, à gauche. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. En français, le temple Wisnu est à droite du temple Siwa. Serviteur, pour mentionner la position d'un objet, bâtiment ou autre, vous pouvez dire A ada di sebelah kanan B. Je répète, A ada di sebelah kanan B. Ce qui signifie A est à droite B ou A ada di sebelah kiri B. A ada di sebelah kiri B. Ce qui signifie A est à gauche de B. Pour demander le nom de quelque chose en fonction de sa position, vous pouvez dire pohon apa yang ada di belakang candi? Pohon apa yang ada di belakang candi? Ce qui signifie quel arbre est derrière le temple? Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Tony, candi apa yang ada di tengah? Pemandu wisata, Candi Siwa. Tony, lalu candi apa yang ada di sebelah kiri Candi Siwa? Pemandu wisata, Candi Brahma. Tony, oh, di mana Candi Wisnu? Pemandu wisata, Candi Wisnu ada di sebelah kanan Candi Siwa. Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix attrayant pour les expéditeurs sélectionnés. L'exercice consiste à dire bonjour, votre nom, votre pays, votre adresse et vos aliments préférés. Exemple, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons présenter des chansons de Keroncong chantées par Waljina. Écoutons maintenant la première chanson intitulée « En fleurs au sommet de Giri » chantée par Waljina. Chers amis, vous venez d'écouter une chanson de Kronjo intitulée « Sekuntum Bunga di Puncak Giri » ou « En fleurs au sommet de Giri », une véritable chanson de Kronjo. Dans les œuvres des arts telles que la poésie ou les paroles de la chanson, le mot « fleur » est souvent interprété comme une femme à cause de sa beauté et de sa douceur. C'est une belle chanson et poétique chantée par Waljina, une chanteuse de Kronjong indonésien de Solo, Java Central. Elle est née en 1945 et connue comme une chanteuse de Kronjong, notamment la chanson de Kronjong japonaise. Sa capacité de chant lui a mené à détenir le titre de la reine de Kronjong. Bon, chers amis, écoutez maintenant d'autres chansons de Waljina intitulées « Le romance ».
Dari mana datang
Chers amis, voilà la chanson intitulée Asmara ou La Romance chantée par Waldina. Cette chanson raconte l'histoire d'amour des amoureux depuis le début jusqu'à ce qu'ils soient fiancés. Waldina a commencé sa carrière après avoir remporté le concours de chant intitulé Ratu Kembang Kacang en 1958. Elle a également remporté le concours de Star Radio Indonesia en 1965. Au début de sa carrière, elle a lancé un album de compilation avec des autres chanteurs. Ils sont Elingo Beboyo Margo en 1968 et Niko Srini qui est le champion de Harapan Bintang Radio Indonesia en 1967 et Sri Rahajeng. Beaucoup de ses albums qu'elle a été faite avec l'accompagnement de l'orchestre Kroncong Bintang Surakarta mené par lui-même. Waldina avait un duo avec Mus Mulyadi. La chanson Walang Keke et Jangkrik Genggong lui a fait plus célèbre dans ce pays. Elle chante aussi souvent des chansons créées par Gesang, Anjar Ani et Ismail Marzuki. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter les deux dernières chansons intitulées Pleurer, mon cœur et La belle fille. Tous les deux sont chantés par Waldina. Merci à tous et au revoir. Thank you.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.